Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, emplis les cœurs de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit et toutes choses seront créées, et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, illuminez les cœurs de vos fidèles avec la lumière de l'Esprit Saint. Accordez-nous de penser ce qui est droit selon le même Esprit et de jouir toujours de sa consolation. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Jésus, doux et humble de cœur. Ô Marie conçue sans péché. Voilà, alors est-ce que je dois rappeler en quelques mots le charisme de la garde d'honneur où tout le monde connaît bien, il n'y a pas de nouvelle tête, je ne sais trop. Vous préférez, ouais. Alors, un jour je laisserai la parole au garde d'honneur, hein, parce que ça pourrait être intéressant. Comment chacun vit son heure de présence, qu'est-ce que ça lui apporte. Et en tout cas, moi, chez moi, ça, pour une religieuse contemplative, moi, en tout cas, ça, l'heure de présence, de façon continue, on va dire, moi, ça a changé ma vie, en tout cas, de vie religieuse, de simple religieuse que j'étais, quand j'ai découvert, alors j'avais déjà l'amour du Sacré-Cœur dans le monde, mais quand ici il a été remis à l'honneur, oui, on peut se frapper la poitrine, ça n'a pas toujours été le cas, et c'est clair, on a la nuque raide, et bien quand la communauté s'est convertie et qu'on a été fidèle à notre vocation, et bien d'aimer et de faire connaître et aimer le Sacré-Cœur, et bien en tout cas moi ça a changé beaucoup de choses chez moi, et entre autres qu'à travers la garde d'honneur, il nous demande de cette attention amoureuse à sa présence. Et donc, il n'est pas dans son ciel, s'occupant de nous aux grandes occasions, non, pas du tout. Il est l'amour qui mendie notre amour. Ah oui, ça l'intéresse, et ce, au quotidien, heure après heure. Alors, la garde d'honneur, c'est quand même une heure, hein, où on va avoir une attention plus vigilante. Alors c'est en temps de l'Avent, c'est le mot qui revient souvent dans la liturgie, vigilance, où là on va offrir ce qu'on fait, tout ce qu'on fait pendant cette heure pour le consoler de notre ingratitude et aussi pour celle de l'humanité, pour tous ceux et celles qui l'oublient, qui n'ont même pas conscience que le matin, si elles arrivent ou ils arrivent à se lever, c'est grâce à l'amour que le Seigneur leur porte. Et alors c'est pas un péché si on l'oublie, on supplée au moment où on y pense. Mais par contre, alors notre Sainte Mère dans ses écrits, nos saints fondateurs disent de pas rester pour une visite andine sans ne pas rester un quart d'heure à notre montre sans se retourner vers Jésus. Donc si on regarde le temps qui s'écoule sur la montre, un quart d'heure à la fois, c'est long, et puis aujourd'hui, tout va très vite, donc c'est très court. Et donc notre saint fondateur demandait à ce qu'on ne reste pas un quart d'heure sans penser à Jésus, quoi. Donc, alors c'est sûr que pendant notre heure de présence, eh bien on va avoir cette attention à penser à lui, hein. Mais si par exemple, votre heure que vous avez choisie, vous êtes au téléphone avec une personne, c'est clair que si vous êtes pris par la conversation, il est bien possible que le quart d'heure va passer et que vous n'ayez pas eu retour à Jésus. Alors, voilà, la démarche de l'heure de présence, c'est au début, on dit sa prière d'offrande, où on prend conscience que Jésus est présent au tabernacle, il est en moi et à côté de moi, et je vais prendre conscience de cette présence, et je vais donc tout offrir, je lui dis que tout ce qu'il va faire cette heure, c'est offert pour lui. Donc il n'est pas, en somme, une obligation de penser à Jésus de façon permanente, et ça c'est impossible à moins d'une grâce particulière, mais je reviens quand même à mon quart d'heure. Ceci dit, c'est quand même une application, je le disais peut-être pas par le passé, mais je le dis maintenant, moi je le dis aujourd'hui avec ma petite expérience et puis avec la nécessité de notre monde, d'avoir cette attention amoureuse au cours de son heure, ben voilà, je fais des œillades, dit Saint-Louis-Marie de Montfort, je regarde de temps en temps Jésus, quoi, et je pense que si on est amoureux, donc c'est à nous de réchauffer notre cœur, et bien avec le cœur de Jésus, Sainte Marguerite Marie dira d'aller chercher la charité, d'aller chercher ce feu dans le cœur de Jésus, pour réchauffer le nôtre, notre amour, pour avoir cette attention amoureuse au cours de notre heure et de temps en temps, lui dire un petit mot d'amour, quoi. Alors on est en train de faire la cuisine, c'est sûr, on est très concentré sur le steak qui doit cuire sur les deux faces, mais rien, c'est pas, je pense que c'est à la portée de tous et de toutes de se dire ah ben Jésus je t'aime tout en tournant le steak. Vous allez, ça fait sourire. Mais ceci dit, l'heure de présence, c'est ça. C'est cette ascension amoureuse que le Seigneur a dans notre quotidien. Et nous, on ne mesure absolument pas, du moins on est à des années-lumière, de mesurer que le Seigneur mendie ces petits actes qui paraîtront pas. Donc sachez que le Seigneur, doux et humble de cœur, ô combien il apprécie ces choses cachées. Pourquoi ? Parce que l'amour propre, et on en est plein, se glisse partout, et il faut bien avouer qu'on a une certaine gloriole à se montrer priant. Ce sera vu de personne, et puis en plus il faut qu'on pose un acte de foi, parce qu'on se dit est-ce que le Seigneur l'a vu, ou est-ce qu'il va le recevoir, etc. Alors il est Dieu, il habite notre cœur, donc il sait très bien ce qu'on a fait, il connaît les pensées les plus secrètes. Et du coup, c'est sûr que ça joue sur un acte de foi et sur une pureté d'intention. Nous, à la Visitation, notre Saint Fondateur met beaucoup l'accent sur la pureté d'intention. De faire gratuitement pour Dieu sans qu'on sache si oui ou non il l'a reçu, c'est notre foi qui nous guide. Et ça peut être un remède à notre foi malade. On est dans le « m'as-tu vu ?»« Je le sais ?» Enfin voilà, on est beaucoup dans l'extérieur. Et là, l'heure de présence nous appelle à une intériorité. C'est un cœur à cœur avec Jésus, où je vais lui offrir tout ce que je vais faire. Et puis, on peut le faire pendant son travail. On est à l'usine, à son bureau, on est entouré de collègues athées. Personne ne s'en rendra compte. Voilà, mais lui, si. Et ça, c'est important. Donc, c'est ça, l'heure de présence. Donc, alors vous pensez bien, moi je l'appelle ainsi, et je suis sûre que vous diriez oui, elle a raison. C'est ce qu'on appelle une école de sanctification indolore. Donc il faut, en somme, quand on pense à Jésus d'une façon continue, le plus qu'on peut, vous mettez sur une source. Voilà. Donc, sur la source divine. Donc, obligatoirement, le Seigneur passe. Vous vous en rendez pas compte, et je dirais tant mieux. Mais en tout cas, le Seigneur passe et il nous transforme. Au fil des ans, on se dit, tiens, j'aurais pas réagi comme ça, quoi. Je change ma façon de voir les choses. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, c'est lui qui nous change, quoi. Et c'est en ça où c'est important, mais je le redirai tout à l'heure à la fin de la formation, en ces périodes de fête, de faire connaître la garde d'honneur comme le cadeau, parce que en somme, vous en bénéficiez, moi je vous dis, ça a changé beaucoup de choses, de se rendre compte que c'est un Dieu qui mendie mon amour et que je ne peux pas vivre sans lui, quoi. Et le monde n'a pas conscience qu'il a besoin de lui, quoi. On donne un petit tract, et puis les personnes, comme le Seigneur cherche des âmes, des cœurs ouverts en ces temps de fête, parce que on a tendance à oublier que Noël, c'est la naissance de Jésus, donc c'est son anniversaire, c'est lui qui est le héros de la fête. Vous verrez que le jour de Noël, tout le monde se réunit, alors les chrétiens bien sûr autour de Jésus enfant, mais beaucoup de familles se réuniront pour une amitié, on va dire, pour des liens amicaux, mais ils ont oublié l'essentiel d'inviter, l'invité par excellence, c'est Jésus, quoi. Et donc on fait la fête sans l'invité, quoi. Vous avez déjà vu ça quelque part, vous ? De faire l'anniversaire de quelqu'un sans celui qu'on fête, c'est ce qu'on va faire, la majorité. Donc c'est quand même absurde. Donc c'est important d'en prendre conscience et du coup de faire connaître la garde d'honneur pour que les gens rentrent dans cette démarche. Il faudrait peut-être je crois qu'il y a des chaises ici, libres là. Voilà. Alors aujourd'hui, je me proposais, dans le cadre de l'Avent, de vous parler de la troisième venue du Seigneur, donc la venue du Christ dans la gloire. Alors, bien pauvrement, mais voilà, aidé du catéchisme de l'Église catholique, et puis notre saint fondateur. Et donc, c'est vrai que c'est un thème, de, voilà, on, pour un gardonneur, la gloire, hein, le Christ, la venue du Christ en gloire doit nous être en tout cas chère. Pourquoi ? Parce que sur le cadran de la gardonneur, il y a réparation, amour et gloire. Donc, voilà, comment je l'envisage, cette gloire ? Alors, je vous partage pour commencer un passage d'un sermon de Saint Bernard pour l'Avent. Il viendra parmi nous le Verbe de Dieu. Donc ça, c'est le titre. Nous savons qu'il y a une triple venue du Seigneur. La troisième se situe entre les deux autres. Celles-ci, en effet, sont manifestes, celles-là, non. Dans sa première venue, il apparut sur la terre et il a vécu avec les hommes lorsque, comme lui-même en témoigne, ils l'ont vu et l'ont pris en haine. Mais lors de sa dernière venue, toute chair verra le salut de notre Dieu et ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. La venue intermédiaire, elle, est cachée. Les élus seuls la voient au fond d'eux-mêmes et leur âme est sauvée. Ainsi, il est venu d'abord dans la chair et la faiblesse, puis dans l'entre-deux, il vient en esprit et en puissance. Enfin, il viendra dans la gloire et la majesté. Cette venue intermédiaire est vraiment comme la voie par laquelle on passe de la première à la dernière. Dans la première, le Christ fut notre rédemption. Dans la dernière, il apparaîtra comme notre vie. Et entre-temps, il est notre repos et notre consolation. Voilà, donc prendre conscience que c'est un petit peu le thème d'aujourd'hui, même si vous allez voir, c'est un peu osé dans le sens où, où on fête la vie en ce moment par excellence. Enfin, je veux dire, c'est le maître de la vie qui va naître. Ben, moi, je vais vous parler de la mort pour vivre. Voilà. Donc c'est vrai que c'est peut-être un peu morbide la veille de Noël, mais en ces périodes de fête, il y a toujours un petit refrain qui m'attriste. Moi, c'est voilà, mangeons bien, nous mourrons gras. Et mais oui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va faire ces orgies. Hein, on va dépenser, même si la Sainte Église le rappelle à travers la voix du Saint-Père en ces périodes de fête, de certaines sobriétés dans nos repas. Et je pense que voilà, il faut en être conscient. Hein. Il y a du gaspillage. Je vois que pour le premier de l'an, il y a des gens qui s'endettent, hein, pour le foie gras et le champagne. Et on n'est pas au-dessus, hein, de toutes ces petites. Je dis pas qu'il faut pas non plus faire la fête. Je suis pas contre. Mais voilà, c'est est-ce que ça s'arrête sur la terre, hein? Est-ce que notre vie s'arrête sur la terre? Et à Noël, c'est l'occasion, en tout cas le temps de l'Avent, de regarder ces trois venues, donc celle du 25 décembre, hein, qu'on va commémorer, donc actualiser, et puis celle de tous les jours, hein, donc je vous disais, notre fondateur disait ce jardinier, hein, Jésus prend la forme du jardinier, donc comme Marie-Madeleine, elle ne va pas le reconnaître, et nous, je suis sûre que cette semaine, en tout cas moi aussi, je ne l'ai pas toujours reconnu sous l'aspect du jardinier. Et puis, il y a cette dernière venue, et sommes-nous prêts, justement, à le voir arriver dans la gloire ? Que ton règne vienne. Quand on dit le Notre Père, eh bien, voilà, est-ce qu'on y croit ? Est-ce qu'un jour, le règne du Christ ? Voilà, hein. Qu'est-ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique ? Au numéro 664, il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Voilà, on le prie, hein, tous les dimanches dans le credo de Nicée-Constantinople. La venue du Christ dans la gloire, confessée dans le credo, n'est pas la simple reproduction de sa première venue qui l'a conduit à la mort. C'est la manifestation finale du ressuscité qui ne meurt plus. Le Christ glorieux ne viendra pas compenser par une victoire inscrite à l'intérieur de l'histoire des hommes l'échec apparent de la croix. Le royaume qu'il a annoncé et inauguré et qui ne trouve alors son achèvement ne vient pas de ce monde. Cependant, le Christ glorieux qui viendra dans la gloire est bien celui qui est déjà venu, celui qui, dans sa résurrection, a triomphé du péché et de la mort, celui qui ne cesse d'advenir dans nos vies, spécialement à travers les sacrements, qui font mémoire de lui jusqu'à ce qu'il vienne. Nous n'avons ni à imaginer ni à programmer cette venue du Christ, dont le jour et l'heure aussi bien que les modalités sont connues du Père seul. Donc tous ceux et celles qui vous disent que c'est pour bientôt, ça c'est clair, on s'y approche tous les jours. Mais dire que voilà, moi j'ai rien contre les mystiques, mais attention, d'abord vérifier que ça vient de Dieu. Mais en somme, quelqu'un qui vient de Dieu ne peut pas annoncer une date. C'est impossible parce qu'elle est seulement connue du Père. Hein. Alors la liturgie de l'Avent nous indique dans quelle attitude nous devons l'attendre. Veillez car vous ne savez pas l'heure. C'est Jésus lui-même qui a annoncé dans l'Évangile la venue du Fils de l'homme. Les premières communautés chrétiennes pensaient d'ailleurs que le retour du Christ et la fin des temps étaient imminents et avaient donc pour principale activité de prier en vue de cet avènement. C'est peut-être ça qui nous manque. Nous, aujourd'hui, les premières communautés chrétiennes n'osaient même pas travailler parce qu'ils étaient sûrs que le retour du Christ était pour bientôt. Nous, on s'est tellement installés que on n'est plus du tout dans cette perspective qu'il va revenir. Quoi. Maranatha, viens Seigneur. Ce retour désigné par le terme parousie, donc parousia en grec, présence, avènement, c'est pour la foi chrétienne l'accomplissement définitif du règne de Dieu sur terre. Quant à la fin des temps, qui coïncidera selon les Écritures avec la parousie, elle se manifestera par un temps d'épreuves et de catastrophes, une période apocalyptique de révélation divine. Et là, je cite le catéchisme de l'Église catholique au 675, numéro 675-677. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse, apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Je vais y revenir. L'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe, un triomphe historique de l'Église, selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal qui fera descendre du ciel son épouse. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier, après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe. Alors, donc c'est vrai que c'est intéressant d'aller voir ce que dit le catéchisme de l'Église catholique sur justement cette gloire, cette attente du retour du Christ. Et avant cet avènement, qu'est-ce qui va précéder l'avènement du Christ, cette gloire? Eh bien, c'est quand même un ébranlement cosmique. Et puis, comment dirais-je, une apostasie, pour beaucoup en tout cas, de la vérité, ce règne de l'Antichrist. Et je reprends la phrase qui est comme si on se met, toutes les nouvelles qu'on entend dans la tête, et on reprend ce passage, c'est-à-dire que celle du pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Quand on voit toutes les lois, et on en est, c'est pas encore fini. Donc, que l'État s'amuse à faire passer, même la nuit, ils font même des heures sup, ils sont courageux. Hein. Et il faut même avouer, même quand les lois sont pas dans la majorité, ils n'ont pas obtenu la majorité, ça ne leur pose aucun problème, ils affirment que la loi est passée. Et le pire du pire, c'est que personne ne dit rien. Personne ne peut réagir. Tout le monde est comme anesthésié, quoi. Enfin, c'est assez. Enfin, j'ai une fausse pincée pour dire je rêve pas, quoi. Enfin, j'ai assez. Et voilà, donc, alors je suis pas, ou peut-être, j'en sais rien, peut-être prophète, j'en sais rien, mais je veux dire, quand je regarde les. Je suppose que je suis une accro des infos parce que j'en ai pas le temps, puis. Ça c'est entre parenthèses, je considère que tout est mensonge, c'est une façon de nous manipuler, donc en somme tout ce qui est donné par les informations, pour moi c'est du mensonge, c'est pas vrai, donc du coup ça sert à rien, je perds du temps à ça, je préfère aller prier mon chapelet, et puis du coup j'ai l'inspiration, j'ai en général la bonne nouvelle, mais ceci dit, ça quand même, je pense pas me tromper en vous disant et en me disant, qu'on est sûrement dans cette étape qui précède l'avènement du Christ, hein, c'est clair. Alors, il n'est pas question de temps, hein, on ne peut pas, hein, c'est attention, seul le Père connaît, hein, donc il n'est pas du tout à se dire, ah, la mère de la visitation, elle a dit que ça y est, il arrive bientôt. Alors j'espère que c'est ce que vous allez retenir pour vivre Noël, quoi, pour vivre la suite de l'enseignement. Mais ceci dit, si on a des signes cosmiques, si on a des signes qu'il y a quand même une apostasie générale de la vérité, hein, et je dirais, c'est pas uniquement la personne athée qui refuse la vérité, ce sont les chrétiens, hein, c'est aussi les cardinaux, donc c'est, on est au sein de l'Église dans une apostasie. Donc, je trouve ça curieux quand même, ça se colle bien au catéchisme de l'Église catholique la situation, hein. Donc c'est quand même faut en tenir compte, quoi. Donc on peut quand même pas dire et se dire tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. C'est pas possible. Donc comment je vais vivre ça justement dans cette vigilance, quoi. Alors je continue. Donc j'avais terminé sur le jugement dernier. Hein, donc qu'on le veuille ou non. Quand je vois la misère de ce monde et que les plus faibles, c'est toujours eux qui trinquent, je me dis, il y aura une récompense éternelle, hein, c'est clair. Pas attendre la justice des hommes et la justice de Dieu, et c'est clair qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. En tout cas, c'est pas de moi, c'est du catéchisme de l'Église catholique, donc c'est la foi, c'est notre foi, il y aura un jugement dernier. Hein. Donc le jugement dernier ne renvoie aujourd'hui pour nous préparer à celui du jugement particulier. S'il y a un jugement dernier, avant, il y a un jugement particulier. Donc, à ma propre mort. Donc, c'est ce que je vous disais, vous allez dire, non, la veille de Noël, ça, c'est plutôt morbide, quoi. Mais voilà, une petite citation de Marthe Robin pour vous mettre dans l'espérance, justement. J'étonne les gens en leur disant que je vis pour mourir. Marthe qui dit ça. Que la mort est la grande idée, le sens de ma vie. Qui peut dire ça? Il n'y a que les saints qui peuvent dire ça. Je vous dis, vivons bien, nous mourrons gras. Voilà dans quel état on est, nous. Hein. La mort, c'est la grâce des grâces et le couronnement de notre vie chrétienne. Elle n'est pas une fin, comme hélas encore trop le pense, mais le commencement d'une belle naissance. Voilà ce que vient dire Jésus. Elle ne marque pas l'heure de la dissolution d'une créature, mais son véritable développement, son plein épanouissement dans l'amour. Elle complète notre possession de la vie divine, en supprimant les obstacles qui, ici-bas, nous empêchent d'en jouir à notre aise. Et c'est clair, on n'a pas cette vue, hein, on est toujours dans le manque. Même quand on est avec Jésus dans la prière, on est toujours en manque de quelque chose. Hein. Donc ce manque, c'est pour se tourner vers Dieu, il est nécessaire pour se tourner vers Dieu. Et ce manque sera comblé justement quand on le verra véritablement, quand il reviendra. Ou quand on le verra, si on précède l'avènement, hein, ce troisième événement, on sera comblé quand on le verra face à face. Mais c'est donc nécessaire. Alors c'est vrai que si on n'a pas la foi, ce manque, souvent on le comble par des choses matérielles, hein, la dernière Mercedes par exemple. Elle nous permet de vaquer librement à l'éternel amour, d'avoir conscience qu'il se donne à nous et demeure à jamais en lui. Quand je pense à la mort prochaine, je me dis tant mieux, bientôt j'irai voir le bon Dieu. Ceci dit, je respecte, hein, ceux qui peuvent avoir peur de la mort. Hein. C'est aussi, en somme, ça peut être une grâce, hein, d'avoir peur de la mort. Et puis, dans le dialogue des Carmélites de Bernanos, si bon, c'est un passage très connu, cette supérieure qui va souffrir, ça j'y crois beaucoup, que certains vivent des agonies très douloureuses, ce qu'on appelle la communion des saints. Certains ne sont pas capables, en somme, d'agonir, de vivre les souffrances de l'agonie. Et donc ce sont d'autres à leur place qui endossent l'agonie. Ça, moi, j'y crois beaucoup. Hein. Comme quand je vous l'avais dit, la démarche d'âme victime, c'est-à-dire de porter, d'accueillir sa propre souffrance dans l'événement, dans le bon plaisir de Dieu, eh bien, c'est certes pour soi, mais c'est aussi pour enfanter des âmes qui n'en sont pas capables. Hein. Donc, il ne faut pas se dire, ça y est, oh, je suis attachée. Ça peut, il faut se poser, de toute façon, on va le voir tout à l'heure, il faut se poser la question, ben, voilà, est-ce que je suis trop attachée à la terre pour avoir peur de la quitter? Ça peut être en tout cas une bonne réflexion. Mais ceci dit, on peut avoir peur de la mort, pas parce qu'on a peur de pas être prêt pour le voir, mais parce qu'on porte pour d'autres. Hein. Alors, là, je vais vous partager un petit passage. Avant de vous partager ce petit passage, il y a dans son livre, le père Guibert, sur Contempler l'au-delà pour vivre pleinement l'ici-bas, il parle de petits livres qui étaient utilisés pour bien mourir. Hein, et qui sont, il faut bien avouer, qui ont sûrement disparu de vos bibliothèques, mais qu'on retrouve, devinez, dans les brocantes et dans un tas de poussière. Nous, à la Visitation, on fait donc une retraite de 10 jours au cours de l'année, même si de nombreuses fêtes sont précédées par 3 jours de retraite silencieuse. Mais on a, on va dire, moi je les appelle mes jours de vacances, hein, mes 10 jours de vacances de l'année, où là, j'abandonne mon silice. Et du coup, ceci dit, au cours de les 10 jours de retraite, eh bien, on doit se préparer à la mort. Donc, peut-être que vous nous trouverez trop arriérés, mais ceci dit, pour justement pas être prise par surprise, eh bien, il faut nous y préparer. Et je voulais juste, vous partager justement un petit peu l'ambiance. Comme c'est une vérité dont nous n'avons tous les jours que trop d'expérience et de laquelle néanmoins nous nous oublions facilement, qu'il faut mourir, que peut-être la mort nous surprendra et nous arrivera subitement, ou que les extrêmes douleurs nous ôteront la liberté et capacité de faire les actes requis en cette dernière heure. Heure décisive de notre bonheur ou malheur éternel. Il sera très utile de prendre tous les mois quelques jours pour se préparer par les actes et exercices d'une mort spirituelle à ce qu'il faudra réellement faire quand il faudra actuellement mourir. Veillez et tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne pensez pas, dit notre Seigneur. Et voilà. Ce premier jour doit être employé, donc c'est sur 2 jours, à faire une revue de son intérieur pour voir s'il n'y a point quelque péché secret ou quelque attache désordonnée ou aversion du prochain ou quelque autre chose où il faille apporter remède avant de paraître au jugement de Dieu. Il faut tâcher de se mettre dans l'état où l'on voudrait être à l'heure de la mort, puis se rendre fidèle à s'y conserver. Bienheureux qui vit toujours dans le même état où il voudrait mourir, il ne sera jamais surpris. Ça, je trouve que c'est génial. De vivre tous les jours, donc ça on va le voir, hein, Charles de Foucault, il voulait vivre tous les jours comme si c'était son dernier jour. Déjà, moi je l'utilise pour la communion, pour ne pas rentrer dans l'habitude, parce que nous qui sommes... j'ai juste à quitter mon bureau, donc à faire 3 pas et d'arriver à la chapelle. Donc tous les jours, ne pas tomber dans l'habitude, dans la consommation de l'Eucharistie, mais toujours éveiller notre amour, notre désir, notre faim eucharistique, de me dire peut-être que c'est la dernière fois aujourd'hui, donc le prendre comme un viatique, peut-être que c'est la dernière fois aujourd'hui que je vais communier. Et ceci dit, si je transpose à la mort un jour, je le verrai, en tout cas je serai peut-être mort accidentelle ou suite à une maladie longue et douloureuse. Ceci dit, si tous les jours je me dis Ben voilà, si là Jésus aujourd'hui venait me chercher, je viens me disputer avec la voisine, et ben voilà, et si on essaie de pratiquer ce que je viens de vous dire, on se dit bon, je vais peut-être pas attendre, ou je vais peut-être pas rester campé sur de toute façon, c'est sa faute. Voilà, hein. Ou alors là, non, ça fait 77 fois que je la laisse faire. Je ne vais pas la laisser faire une 78e fois. Non, c'est fini. Voilà, je lui ai dit ce que je pensais. Et puis, j'ai bien fait, je lui ai dit ces quatre vérités. Ce n'est pas des choses qu'on se dit à l'intérieur. Alors, en bon chrétien, on ne se le dit pas trop, mais on se le dit à l'intérieur. Eh bien, non. Et parce que, ben voilà, si Jésus vient vous ravir, si l'heure, justement, de le voir sonne, eh bien, il faut mieux être dans l'état de se dire, eh bien, je vais lui pardonner 77 fois cette fois. Moi, j'avais vécu ça avec une personne où je sentais qu'elle abusait, hein, c'est clair. Et parce qu'à chaque fois, c'était répétitif et j'avais toujours cette parole de l'évangile, 77 fois, 7 fois. Oh, je me disais, encore 77 fois, 7 fois, donc c'est infini, quoi. Et on a tous des occasions où on se dit, il abuse, enfin, le fils qui exagère, ou le petit-fils, ou comment dirais-je, la femme qui insupporte parce qu'elle a toujours cette manie, mais nous dans la vie religieuse c'est pareil quoi. Et eh bien non, enfin, je veux dire 77 fois, 7 fois, et si Jésus venait me voir, voilà. Si Jésus venait me chercher, alors nos sociétés développées se laissent de plus en plus happer par le superficiel, et donc ça d'autant plus à Noël, vous allez vous entendre encore un peu plus quand. Vous allez le voir encore un peu plus sur les rayons des magasins. Prendre conscience de ce phénomène est déjà une marque de lucidité et indique qu'on désire s'arrimer à l'essentiel. Beaucoup d'entre vous souffrent de voir justement un monde qui est sans Dieu et du coup qui part dans le matérialisme de façon démesurée, quoi. Bon, je dirais tant mieux que ça vous fasse souffrir. Ça, il faut vous en réjouir. Moi, je plains ceux qui ne souffrent pas de voir cet étalage même avant Noël, on n'avait pas commencé l'avant, que ça y est, ils avaient déjà sorti les crèches, quoi. Et bah, sans Jésus, donc ils ont mis le Papa Noël à la place. Et je veux dire, c'est faut vraiment s'en réjouir. Parce que si ça nous fait plus mal, eh bien, on n'est plus une pierre d'achoppement. C'est-à-dire que normalement, votre voisin doit pouvoir trouver en vous une pierre d'achoppement. Hein, si Saint-Pierre a renié, on parle d'apostasie, si Saint-Pierre a renié Jésus, c'est qu'il s'était dissolu. Il était dilué. Il n'avait plus de conviction. Si on a des convictions, si on tient à la vérité qu'il y a un grand V qui est Jésus-Christ, de voir cet étalage où Jésus ne figure nulle part, c'est manger, 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 réjouissez-vous, endormissez-vous, voilà, etc. Pensez surtout pas. Eh bien, si ça vous fait mal, je vous dis, bien heureux êtes-vous, parce que vous n'êtes pas dans l'esprit du monde. Et aujourd'hui, on nous fait croire, on nous fait même porter le chapeau, c'est nous qui sommes le problème. Eh ben non, je suis désolée. On n'est pas le problème. C'est eux, il leur manque quelqu'un. Donc, continuez de vous réjouir d'être une pierre d'achoppement. Puis si vous ne l'êtes pas, ben, il faut vous arrimer. Il faut demander la lucidité à l'Esprit-Saint pour prendre conscience que, ben non, je ne peux pas aller à la messe le dimanche, dire mon credo, et puis continuer de vivre dans l'insouciance. Un jour, je le verrai. Comment je vais me présenter à lui? Voilà. Où est-ce que j'ai mis mes priorités et en qui je les ai mises, quoi. Si nous entrions dans le sillage des saints qui vivaient le moment présent comme si c'était le dernier, nous n'aurions aucune difficulté à hiérarchiser les choses de notre vie. Combien d'événements érigés en absolu nous apparaîtraient pour ce qu'ils sont vraiment des non-événements? Combien de faits du quotidien nous troublent, voire nous effondrent, alors qu'ils ne sont qu'accidentels. Dans la perspective de la fin ultime, ils se dégonfleraient comme un ballon de baudruche. Combien de chicaneries et de fâcheries stupides seraient évitées si nous n'oublions pas notre issue finale? Combien d'angoisses inutiles et de tempêtes dans un verre d'eau seraient apaisées si nous les regardions du point de vue de notre lit de mort? Père Guy Bersin. Comme le dit très bien le père Catalamessa, regarder la vie à partir du point d'observation de la mort aide de manière extraordinaire à vivre bien. Je trouve ça génial. Bien, bien vu. Hein. Voilà. Se dire, voilà, il faut s'imaginer dans son lit de mort. Voilà. Moi, j'utilise beaucoup l'imagination, parce qu'elle nous est donnée par le bon Dieu pour communier au surnaturel. Donc, voilà, je m'imagine, quand je faisais je préparais dans la prière la formation, voilà, je m'imaginais dans mon lit de mort, hein, sur mon lit de mort, parce que nous, tous les soirs, j'aime vous partager hein, la vie d'une visitandine. Quand on se couche, bah, y a toute une préparation spirituelle. Parce que qui me dit que je vais me réveiller demain matin hein? La mère déposée, l'ancienne mère de Paray-le-Monial, est décédée un 25 décembre, il y a un an. Hein? Donc, la supérieure actuelle, c'est Mère Marie-Simon. Quand le jour de Noël, elle ne l'a pas vue arriver à l'office, elle s'est dit, mince. Est-ce qu'elle s'est endormie? Elle a une panne de réveil, etc. Et on pense se faire. Voilà, alors elle est allée voir, et puis l'infirmière avait indiqué qu'elle n'était pas réveillée. Elle n'entendait pas la sœur répondre quand elle a frappé à la porte de sa cellule. Donc la mère est allée frapper, et puis elle a ouvert, et qu'est-ce qu'elle a vu? La mère, elle était morte. Elle s'était endormie avec son chapelet. Mais endormie dans l'amour de Dieu, quoi. Un 25 décembre, c'est un rêve, ça. Le voir le 25 décembre, elle a réussi son coup, c'est beau. Mais même si, voilà, que je vous disais la dernière fois, c'est aimer le bon Dieu, c'est aimer la volonté de Dieu. Donc, il viendra peut-être me chercher le 26 décembre. Mais ceci dit, voilà, pas avoir de date. Hein. Mais c'est pour vous dire que, ben voilà, elle s'est couchée, elle pensait bien se relever le lendemain. Hein. Eh ben non, elle ne s'est pas relevée le lendemain. Alors, une visite en ligne, quand elle se couche dans cette démarche, se dire... Que demain je me lèverai peut-être pas, voilà, et mon corps ressuscitera. Donc c'est ce que la position allongée, c'est rappel la mort du cadavre, quoi. Mais on a toujours ce cœur tourné vers l'espérance, ce regard tourné vers Jésus ressuscité, et qu'on ressuscitera un jour. Donc c'est sûr hein, que ça calme, on va dire, quand vous vous couchez, de vous mettre dans cette attitude. Hein. Et alors, donc, j'imaginais, justement, dans mon lit de mort. Et c'est vrai que les choses auxquelles on porte beaucoup d'attention, beaucoup d'importance, et pour lesquelles, des fois, on est très blessé, eh bien, quand on les regarde allongés dans notre lit de mort, eh bien, on se dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine hein, de s'y attacher avec tant de force? Et puis bon, bien sûr, on est tous dans nos familles les fâcheries. Malheureusement, on en a tous. Où je fais des difficultés. Enfin, par rapport à mon garçon qui je lui dis pas assez souvent que je l'aime, etc. Parce que il le sait, j'ai pas besoin de lui dire. Ou même à mon mari, il le sait. Non, je suis désolée. Quand j'ai remarqué ça aux sépultures, une famille complètement fâchée, c'est ces jours-là. Enfin, moi, c'est ce que je connaissais dans la mienne. C'est ces jours-là où tout le monde est réconcilié. Et là, on se dit tout ce qu'on sait, mais avant, on s'est tous jeté des tomates à la figure, quoi. Et s'il faut attendre ce jour-là pour se le dire, voilà. Et je vous dis, si vivre aujourd'hui en étant allongé dans son lit mort et dire, la tante Germaine avec qui on est fâché, et si je pars demain? Voilà. Si je ne me réveille pas demain matin? Il faut mieux régler nos affaires avant, quoi. Donc voilà. Le principal de la vie consiste à ajuster notre vie à Dieu. L'homme dit un psaume, quand il meurt, il n'emporte rien. Avec d'autres mots, Jésus dira dans l'Évangile, que sert donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie? Voilà pourquoi Saint Ignace de Loyola place la perspective de la dernière heure au début de ses fameux exercices spirituels. On est mis, commente le père Garrigue, devant sa propre mort, justement pour pouvoir prendre à bras le corps sa vie en ayant une juste hiérarchie des urgences et des priorités. Est-ce que si nous savions qu'il ne nous reste que quelques semaines ou quelques mois à vivre, nous ferions forcément les mêmes choix que nous faisons actuellement? Voilà. Et Moi, j'aime assez autant sur la terre. Quand on voit la devise de la République, égalité, c'est faux. C'est faux. On n'est pas tous avec la même égalité. On n'a pas tous la même grâce de naître dans une famille chrétienne pratiquante, parce que c'est ça le plus important. C'est pas d'avoir un compte en banque bien rempli, même si c'est vrai, ça simplifie la vie. Encore que des fois, le Seigneur passe par justement une pauvreté matérielle pour visiter la famille. Hein. Eh bien, au moins à la mort, on sera tous dans la même condition. Ça veut dire qu'on n'emportera rien. L'autre jour, je discutais avec le monsieur qui a fait la crèche, là, notre ami, et puis il me disait, « Ah, ma mère, mais à quoi ça sert toutes les choses qu'on entasse? Je vais rien emporter, ma mère. » Ah, j'aime beaucoup, hein. Mais c'est clair qu'on n'emportera rien, quoi. Alors, hein, voilà, uniquement celle qu'on a donnée, hein. Mais ceci dit, quand on regarde notre façon de vivre, enfin, tout ce qu'on peut entasser, tout ce qu'on peut acheter, tout ce qu'on peut même chérir, hein, et des fois mettre son cœur à l'intérieur, quoi. Alors, pour une visitandine, qui n'avons normalement rien, des fois on s'attache à des bagatelles, à un mouchoir ou je sais pas quoi, et du coup, bah, là, se rendre compte, bah oui, parce que voilà, comme on n'a rien, bah, le peu qu'on a, comme la nature est viciée par le péché, on s'attache à des trucs. Et quand on nous le prend, hein, ça m'intéresse pour le dire, il y a d'autres... quand on lui avait pris ses pinceaux sans lui demander, elle l'avait senti. Ben voilà, c'était pas ses pinceaux, parce qu'on n'a pas des pinceaux à nous. C'est dans l'emploi, on nous donne le matériel pour réaliser la peinture, mais ils nous appartiennent pas. Et c'est sûr, quand on, alors même si on le sait intellectuellement, quand on nous les prend, on dit ben mince, elle aurait pu me le demander, c'est quand même mes pinceaux. Non. Ben voilà, à peu de choses, ceci dit quoi ? Ça prend la place du bon Dieu. Donc du coup, prendre conscience que ben voilà, je ne vais rien emporter. Donc comment je vais m'attacher aux choses matérielles? Parce que bien non, il ne va pas falloir non plus vivre sans rien. Vous êtes obligés d'avoir du matériel. Donc, mais voilà, comment je m'y attache, quoi. C'est-à-dire, je ne mets pas mon cœur à l'intérieur. Donc ça ne vient pas à un absolu. Je n'ai pas la nécessité pour mon bonheur. Voilà. C'est important d'y réfléchir, hein, parce que souvent, dans le matériel... Le matériel contribue à notre bonheur sur la terre. Ah ben, je suis désolée. Ça ne devrait pas. Seul Dieu est notre bonheur. Donc là, ça permet de mettre les choses à leur juste place. Voilà. Veillez car vous ne savez pas l'heure. Nous ne sommes absolument pas maîtres du calendrier de notre existence terrestre. Notre Seigneur est clair, il nous annonce même qu'il viendra comme un voleur. Voilà. Le temps de nos journées et de nos années défile inexorablement, puis vient le moment à compter duquel le temps ne sera plus. L'attitude la plus intelligente et la plus sage est donc de se préparer à ce moment ultime avec un cœur de veilleur. Voici que je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, dit l'Apocalypse. Alors comment on va veiller, justement ? Donc, j'en ai déjà dit, hein, là je vais faire un rappel, donc je l'ai déjà dit tout le long de l'entretien. Vigilance de chaque jour. Voilà, c'est pas juste quand je vais sentir quand on va m'annoncer que j'ai un cancer qu'il va falloir que je m'y prépare. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le Christ invite à se tenir sur ses gardes comme si chaque jour vécu pouvait être le dernier. Le frère Charles de Foucault avait inscrit ces mots dans sa sacristie de Bini Abbès, vis aujourd'hui comme si tu devais mourir martyr ce soir. Ainsi t'est-il prêt lorsque le Seigneur vint le chercher, lorsqu'on lui tira une balle dans la tête le soir du 1er décembre 1917. Mystérieux, hein, l'inspiration qu'il a eue et comment il est mort. Hein. Alors là, toujours pareil, hein, je veux dire, si, quand on se branche sur Jésus, hein, le Seigneur il donne, hein, je veux dire, si vous avez une inspiration le jour de Noël pour mettre en place ce que je viens de vous dire, hein, de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, de communier tous les jours comme le Saint Viatique, comme un viatique pour faire le grand passage, et puis de débarrasser votre salon de tous ces petits bibelots qui font la joie, votre joie, mais qui sont qui vous exercent aussi au ménage, mais pour remplir, pour mettre à la brocante, pourquoi pas, hein. Enfin, c'est l'occasion. Peut-être est-ce aujourd'hui que tu vas venir me chercher, Jésus. Une telle disposition d'âme est absolument impossible pour qui ne sait s'extraire de la pensée actuelle, où mort et morbidité vont de pair. Je suis désolée. Donc c'est là où il faut avoir du courage, et ça on puise dans le cœur de Jésus, hein, c'est-à-dire que dans l'amour qu'on porte à Jésus, de pas tomber dans cette ambiance, donc je vous dis, de demeurer une pierre d'achoppement, de pas de se dissoudre dans l'ambiance actuelle, parce que c'est clair, on fait tâche, hein. Mais ça, c'est pas grave. Ça, il faut l'endosser, puis il faut être capable de l'assumer, c'est certain. Mais je pense que c'est important, parce que pourquoi? Il en est de votre bonheur éternel. Après, une vigilance amoureuse. Nous connaissons les mots que Sainte Thérèse d'Avila prononça au soir de sa vie en direction du Christ. Donc aujourd'hui, on fête Saint Jean de la Croix. « Mon époux et Seigneur, l'heure désirée est venue. » Il est temps de nous voir, mon bien-aimé, mon Seigneur. Voilà. Moi, je vous l'espère, hein, d'avoir. Quand vous communiez, hein, nous, on a comme ça des petites sentences, on a des petits réveils, des petites phrases qu'on dit pour recevoir Jésus Eucharistie. Et voilà, d'aller voir, de recevoir Jésus Eucharistie, comme de se préparer à la mort, de se mettre dans cette condition en disant ah, il tarde de nous voir. Hein. C'est beau, hein. Et on n'est pas du tout démodé pour autant. Hein. C'est voilà, mais de nourrir en soi le désir de le voir. C'est pas du tout morbide, c'est pas du tout de se dire oh, j'ai envie de mourir. Non, c'est rappelons-nous, Marthe, c'est avoir un grand désir de la vie, de nourrir ce désir de le voir. Donc peut-être que dans votre entourage, vous allez être amené à accompagner des personnes qui sont en fin de vie, justement, hein, qui vont bientôt le voir, quoi. Et moi, j'ai eu la grâce, jeune supérieure, c'est pas que je suis une très vieille supérieure encore, mais je me suis dit dans mon premier trimestre, ma première année de supériorat, d'accompagner justement à la vraie vie, hein, de voir Jésus, de l'accompagner, d'accompagner une de mes sœurs. En plus, ce qui était très beau, c'est qu'elle avait été, quand j'étais novice, je m'en suis occupée, elle était en infirmerie malade. Et donc, quand je suis arrivée, j'ai été mise en infirmerie, donc je m'en étais occupée. Et supérieure, je l'ai accompagnée, justement, à cette préparation de son cœur, de voir Jésus, quoi. Et je me souviens que ben voilà, toute jeune supérieure, c'était la première fois en tout cas que j'accompagnais une de mes sœurs à se préparer à cette rencontre, et bien de lui avoir, de dire à sa place toutes ces phrases, hein, toutes ces mots d'amour que je disais à sa place, et du coup ça m'avait fait prendre conscience de me dire, eh bien oui, quoi, est-ce qu'on a cette joie d'espérer de le voir, quoi. Et ça m'avait été une grande école, et que j'ai gardée, j'avoue, donc grâce à ma sœur qui m'en avait fait le cadeau, de nourrir en moi ce désir de le voir. Hein. Donc pour la petite histoire, je ne passe pas sur le mot de vie éternelle sans avoir une pensée, que je fais une œillade à Jésus en disant oui, je vous désire. Ça alimente l'amour intérieur. Hein. Sinon, on est froid. Ouais, oui. Très juste. Ah, c'est beau. Et puis, la vigilance insouciante de l'enfant. Notre saint fondateur, hein, parle beaucoup, et ça je vous en parlerai la prochaine fois en janvier quand on se verra, on verra l'attitude, parce qu'il va beaucoup regarder l'enfant de Jésus. Notre saint fondateur, pour tous les conseils spirituels qu'il a pu donner à ses filles et à tous ses dirigés, eh bien il prenait dans la nature, il prenait dans la vie au quotidien, donc il regardait sa maman, comment elle vivait, etc. Et il a beaucoup, en tout cas, donné d'enseignements grâce à l'enfant Jésus, hein, le divin poupon. Et donc voilà, qui était justement emmailloté, donc il ne pouvait pas aller là où il voulait, etc. Donc on l'imagine, hein, regardant ses frères et sœurs quand ils étaient petits, et c'est riche de conseils spirituels. Et du coup, notre saint fondateur parle beaucoup de l'enfant d'amour reposant sur la poitrine du Sauveur, où l'enfant Jésus reposant sur le cœur de Marie, quoi. Et notre vigilance, elle doit être insouciante comme l'enfant. L'enfant s'abandonne, hein. C'est l'adulte, hein, qui a tous ces raisonnements de comment ça va se passer, est-ce que je vais être ci, est-ce que ça va être ça, est-ce que si. On a tout plein de questions. L'enfant, il n'a pas tout ça dans la tête, hein. Il est naturellement abandonné parce qu'il sait que ça ne peut pas venir de lui. Nous, on est tellement dans la maîtrise de l'événement qu'on se dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Voilà. On n'est pas dans l'accueil, hein, de l'Esprit Saint, spontanément, on va dire, et puis de recevoir justement, ben voilà, le Seigneur va venir me visiter comme et quand il voudra. Voilà. Donc c'est pour ça, hein, que j'ai choisi de faire l'enseignement juste avant Noël, pour, comment dirais-je, préparer ce dernier avènement qui est le règne, hein, la gloire du Christ, parce que de toute façon, peut-être qu'on ne le verra pas, même si ça s'approche, on a en tout cas des signes, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on le verra en tout cas tous à travers notre propre mort, hein, corporelle, ça c'est clair. Et même si on entend des fois autre chose, on sait que de toute façon, il y a ce jugement particulier, et qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, il faudra rendre des comptes de sa vie, ça c'est clair. Hein. Donc c'est bien d'organiser sa vie d'après ceci. Et je vous laisse, comment dirais-je, comme méditation, dont je vous avais dit la dernière fois, de passer l'avant avec Marie, hein. Et donc pour qu'elle nous prépare, qu'elle nous aide à voir ses venues sous l'apparence du jardinier, hein. C'était elle en bonne maman qui était bien à même de nous faire voir les visites de Jésus à travers nos journées. Et là, on va commencer la semaine préparatoire à Noël avec la liturgie, hein, qui va accentuer sur l'attente et surtout la venue, hein. Et l'Église nous tourne vers Marie encore d'autant plus, autant c'était plus Saint Jean-Baptiste sur je suis la voie, hein, donc là l'humilité et l'anéantissement, mais là c'est cette préparation, cette dernière préparation, donc à la fois tenir compte de ce que je viens de vous dire, et puis aussi de partager un petit passage de la maternité spirituelle de Marie, parce que si vous vous souvenez, Jésus dans l'Évangile dit « Bienheureux ceux qui écoutent, hein, la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, plus que la mère qui lui a donné son corps. » Donc, en somme, on est tous de la même famille, mais pour que Jésus prête une attention plus importante à ceux qui font sa volonté, eh bien, donc Marie par excellence l'a fait, mais donc c'est pas tant la maternité, on va dire, corporelle de Marie, hein, mais spirituelle qui est importante pour Jésus. Donc Marie reçut Dieu dans son cœur bien avant de le recevoir dans son corps. Pour concevoir Jésus, moi je trouve ça magnifique, toujours pareil, il précède toujours le Seigneur, c'est d'abord dans notre cœur. Donc c'est en somme le travail de la grâce pendant cette semaine préparatoire à Noël, de concevoir Jésus dans son cœur. Par la foi, au jour de l'Annonciation, Marie accueillit encore plus largement Jésus dans son cœur, en même temps qu'elle le recevait dans son corps. Comme la conception, dit Laurentin, la foi est, au plan spirituel, accueil fécond d'une semence de vie. En recevant la parole, disent les pères de l'Église, tout chrétien conçoit Dieu dans son cœur. Dans cette perspective, la foi implique une sorte de maternité spirituelle. Et la maternité divine physique de Marie apparaît comme le rayonnement de sa foi dans la chair. C'est-à-dire le fait qu'elle ait conçu Jésus, c'est le signe, hein, de sa conception de Jésus dans son cœur. Donc, pour nous, garde d'honneur, c'est comment, en cette semaine préparatoire à Noël, je vais accueillir la parole de Dieu pour concevoir Jésus dans mon cœur. Voilà. Cette parole de vie, comment elle va germer dans mon cœur? Comment elle va donner vie à Jésus dans mon cœur? Donc, une attention, on va dire, renouvelée, une vigilance à écouter la parole de Dieu. Jésus, pendant cette semaine préparatoire à Noël, a quelque chose à me dire de particulier. Voilà. Avec cette parole, je vais pouvoir avancer et correspondre à la volonté de Dieu sur moi. Cette maternité se réalise donc par la foi et par l'amour qui entraînent à leur suite unité de pensée, unité de volonté, unité de vie. Alors saint François de Sales, sur la Sainte Vierge, nous dit dans un fragment de sermon, « Si la femme de l'Évangile criait dans les places publiques où Jésus passait, « Béni soit le ventre qui vous a porté et les mamelles qui vous ont allaité », devons-nous pas donner des bénédictions perpétuelles au Sacré-Cœur de Marie qui a tant aimé Jésus? Ô Vierge glorieuse, vous avez reçu le Verbe en votre cœur avant que de le recevoir en votre sein, et vous êtes plus heureuse de l'avoir aimé souverainement et sans intermission que de l'avoir porté corporellement en votre sein et en votre bras. Et c'est ce que notre Seigneur nous voulait signifier quand il a dit « Mais bien plutôt bienheureux sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Ça dépend des traductions. C'est-à-dire qui n'ont qu'un même esprit et qu'un même cœur avec Dieu. Marie n'avait qu'un même cœur et qu'un même esprit avec le Père éternel et son même Fils unique Jésus, le seul objet de ses éternelles complaisances. Donc la démarche d'accueillir en cette semaine préparatoire à Noël cette parole de Dieu que vous allez entendre au cours de la liturgie, de toutes les cérémonies auxquelles vous allez pouvoir assister, eh bien, c'est-à-dire l'office divin, la préparation à l'évangile des messes de la semaine préparatoire, il n'y a pas que la messe de la nuit ou la messe du jour de Noël, eh bien, comment je vais l'accueillir pour lui donner chair dans mon cœur, comme Marie, donc toujours demander à Marie la grâce, parce que c'est ce qu'elle a vécu. Eh bien, mais dans quel but, et là je vous renvoie au thème de la semaine, enfin du mois dernier, cette unité de volonté, l'union de volonté, d'avoir cette même union de pensée avec Jésus. Donc c'est ce que je vous expliquais, cette transformation de notre façon de voir, de notre façon de penser, grâce à la parole de Dieu qu'on va recevoir dans notre cœur et à qui on va donner vie, quoi. On va laisser germer en nous. Voilà. Donc, pour ça que l'attention à la parole de Dieu, ça ne doit pas être négligé, quoi. Alors, je dirais, nous, à la liturgie, enfin, à l'office divin, je dirais, c'est l'abondance, l'abondance des abondances. Enfin, je dirais, il y en a, il y a beaucoup. Hein, on a beaucoup de paroles. Alors, moi, je vous invite simplement à en retenir une. Ça veut dire, celle qui fait tilt, c'est-à-dire celle qui me perturbe, celle qui me pose question, ou celle... on voit bien que le Seigneur, ça fait plusieurs fois, ça me fait quelque chose à chaque fois que je passe dessus, parce que c'est pas une répétition, hein, c'est une actualisation du mystère. Donc on n'est pas des perroquets qui radotent, hein, c'est pas du tout ça la parole de Dieu ou la liturgie. C'est que tous les ans, quand on revit cette semaine préparatoire et Noël, on se projette au pied de la crèche, quoi. Hein. Et puis là, on entend l'enfant Jésus nous dire, enfin ou Marie ou Saint Joseph, ça dépend, hein, ce qui va résonner dans votre cœur. Une parole en tout cas. Et il va s'agir de demander à Marie pour qu'elle, comme elle, dans la foi, qu'elle germe en notre cœur. Pour, elle a donné vie à l'enfant Jésus, pour donner vie à l'enfant Jésus dans notre cœur, mais pas uniquement notre cœur à nous, alors moi et lui, non, à l'humanité. On n'est pas dans cette unité de pensée, unité de volonté avec Jésus naissant dans notre cœur pour nous-mêmes. C'est obligatoirement, en tout cas moi je vous le souhaite, pour votre entourage, pour tous les gens que vous allez côtoyer, et puis peut-être pour la personne qui vous demandera de l'aide, hein, ou qui vous demandera un conseil. Voilà. Et le conseil que vous allez pouvoir lui donner dépendra justement de la manière dont vous avez laissé et accueilli la parole de Dieu, et puis nourri, hein, cette parole, C'est grand de se dire que Jésus a été, avec le cordon ombilical, reçu le sang hein, de Marie, donc nourri pendant 9 mois, comme un enfant, quoi. Hein, le fonctionnement d'une mère, pour celles qui ont pu apporter des enfants, elles savent, je trouve ça magnifique, se dire, Marie a vécu la même chose, l'enfant Jésus a été alimenté pendant 9 mois de par ce principe. Voilà, comment moi je vais alimenter cette parole, ce verbe fait chair, donc cette parole de Dieu dans mon cœur, comment je vais l'alimenter? Voilà. Avec l'amour, bien entendu, avec l'humilité, avec ce que le Seigneur va vous dire quand vous allez prendre un temps de silence dans la journée avec lui. Je vous assure, il n'est pas avare de paroles, c'est nous qui ne sommes pas là en général. Ou alors, on est déjà projeté en avant, on dit « il va me dire ça ». Bah non. Et puis si, c'est un grand silence. Voilà, un silence, c'est chargé de paroles, hein, je suis désolée. Un silence, c'est plein d'une présence. Une présence, c'est une parole. Parce qu'il est la parole fait chair. Hein, donc, certes, il ne faut pas attendre la grande révélation, hein, sinon là, c'est sûr si vous attendez d'entendre là, vous allez peut-être être déçu, mais justement de rentrer dans cette pauvreté, de vous dire j'ai pas de préjugés, j'ai pas d'a priori, j'y vais bien pauvre, même peut-être je vais m'ennuyer, tant mieux, et on s'ennuie avec Jésus, c'est bien, il est content, au moins il n'est pas tout seul, et puis voilà, cette parole de Dieu, je l'ai entendue, elle fait tilt, et bien qu'est-ce que vous voulez me dire, et comment je vais l'alimenter, voilà. Moi j'aime bien la murmurie, hein. Il faut la mâchonner, hein. La mâchonner. Et puis, on vous dit, ça passera peut-être inaperçu, mais vous croyez que la naissance de Jésus, regardez, qui s'en est aperçu? Il n'y a que les anges, puis après les bergers, mais voilà. Par contre, la révolution, non, par excellence, hein, c'est pareil pour nous. Le soir de Noël, vous recevrez peut-être une parole, ou même avant, de Dieu, ça passera inaperçu. Et pourtant, ça révolutionnera votre vie, si vous la laissez prendre vie en vous. D'accord? Voilà pour la semaine préparatoire. Ouh, j'ai dépassé de quelques minutes. Je voulais juste vous rappeler, je suis à faire hein, les programmes des dates, etc. Donc la prochaine rencontre en janvier 2020, ce sera le 18 janvier. Et vous, d'ici là, à la fin de l'année, en somme dans une semaine, pour certains, vous recevrez... soit par mail ou soit par voie postale, le programme, les dates pour le week-end de 2020 et puis les heures saintes, hein, comme vous avez l'habitude de recevoir. Je vous invite donc à vous servir hein, en tract pour distribuer autour de vous et puis à prendre dans votre prière toutes les personnes malades, tous les souffrants en ces périodes de fête, hein, pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux. Et puis, tous ceux qui n'auront pas la grâce de comprendre qu'il y a beaucoup de joie à ouvrir son cœur à la venue du Sauveur. Hein, voilà. Parce qu'il n'était pas accueilli par les siens. Et c'est encore aujourd'hui, quoi. Donc, c'est toujours d'actualité. Mais en ouvrant votre cœur, vous aidez au cœur d'une personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas à ouvrir le sien. Ça, il faut y croire très fort. Voilà. En tout cas, je souhaite à chacun et à chacune de belles fêtes de Noël, hein, de fin d'année, bien entendu. Je mets plutôt l'accent sur Noël, parce que si on vit bien Noël, on vivra bien l'année 2020. Hein. Si on loupe Noël, le nouvel an, c'est Marie, Mère de Dieu, Mère notre âme de la paix, donc ça c'est clair, commencer la nouvelle année sous la protection de Marie, c'est essentiel, hein. Mais je veux dire, la preuve c'est que nous, on fait rien, hein, c'est la vie ordinaire. Hein, par contre, Noël c'est autre chose, hein, parce que c'est Jésus qui donne, en somme, qui donnera la coloration à notre année 2020. Hein. Voilà, donc Saint Noël, d'accord. Donc, oui. On va terminer avec les invocations liées à la guerre d'honneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Cœur sacré de Jésus, Notre-Dame du Sacré-Cœur,
priez pour nous.
Saint-Joseph,
priez pour nous.
Saint-Jean,
priez pour nous.
Saint-François de Sales et Sainte-Jeanne de Chantal,
priez pour nous.
Saint-François d'Assise,
priez pour nous.
Sainte-Marguerite Marie,
priez pour nous.
Bienheureuse Marie de Jésus,
priez pour nous.
Bienheureuse Maria Gabriella et ses compagnes,
priez pour nous.
Et Sœur Marie du Sacré-Cœur,
priez pour nous.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.